Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien, chers frères, nous sommes aux portes du carême et la quinquesse des Gésime nous amène, pour ne pas nous mentir, immédiatement à la raison pour laquelle notre Seigneur est venu, pour laquelle il va s'engager dans cette vie publique et à laquelle nous sommes invités. Il part pour mourir pour nous. Voyons dans ce petit passage qui se trouve juste à la montée de Jérusalem, ce que le Seigneur et ce que l'Église aujourd'hui tient absolument à nous faire voir. Voyons d'abord les apôtres, nous interrogerons ensuite sur la personne de l'aveugle. Tout d'abord les apôtres. Le Christ les prend à part. Il les prend à part, c'est-à-dire qu'il prend à part ceux qui vont devenir les colonnes de l'Église, car il a besoin de se confier à eux, il a besoin de leur révéler qu'il sait parfaitement ce qu'il fait et que le troisième jour il ressuscitera, car il est venu pour accomplir les Écritures. Il était important que le Seigneur les prît à part pour leur révéler cela, afin qu'ils en soient les témoins et qu'ils puissent affirmer que c'est en toute conscience que Dieu a agi. C'est donc ici très important, mais nous sommes comme un peu déçus puisque, une fois de plus, c'est la troisième annonce, les apôtres n'ont pas vraiment compris. Ils n'ont pas compris puisque la première fois c'était la confession de foi de Pierre, il leur dit « je vais monter à Jérusalem, mourir et ressusciter ». La deuxième fois c'était après la transfiguration, il leur dit « je vais monter à Jérusalem, mourir et ressusciter ». La troisième fois c'était alors juste avant, quand il leur parle d'une entrevue glorieuse de leur mission et où Jacques et Jean demandent les premières places. Alors il leur annonce de nouveau « je vais monter à Jérusalem, mourir et ressusciter ». Il y a une particularité ici, il ne dit pas « je vais aller », il dit « montons ». Alors si évidemment nous sommes un peu déçus de ne pas tout comprendre, c'est que la foi est aux portes de cette démarche, et nous qui sommes aux portes du carême, une fois de plus, notre foi est convoquée. Est-ce que nous croyons vraiment que le Seigneur va monter à Jérusalem, mourir et ressusciter, ce que nous allons revivre, c'est-à-dire nous retransporter au temps béni du sommet de l'histoire où le Christ est venu nous sauver? Est-ce que nous croyons vraiment cela? Peut-être connaissez-vous l'anecdote de Jean-Paul II alors qu'il était encore archevêque de Cracovie, un samedi saint qu'il montait en chaire. Il est monté, vous savez, le samedi saint c'est long, alors on attend que le prédicateur soit court. Ce jour-là, il le fut plus que d'habitude. Il monta en chaire. Il dit « Mais bien, chers frères, le Seigneur est ressuscité et le problème, c'est que vous n'y croyez pas. » Et il est redescendu. Voilà quelle fut toute sa prédication. C'est effectivement bouleversant. Vous avez raison. Et oui, notre foi est convoquée. Il nous est reposé à chaque fois la même question. Est-ce que vraiment notre assemblée n'est qu'une assemblée de croyants qui attend le salut afin qu'il lui soit appliqué ici même, au pied de cet autel, comme un art de la résurrection, ainsi que nous allons pouvoir communier tout à l'heure. Il n'y a pas d'autres questions et ne nous étonnons pas trop que les apôtres n'aient pas tout compris tout de suite. C'est plutôt rassurant. Nous aussi, nous sommes convoqués. Qu'est-ce que nous comprenons vraiment de la présence de Jésus, corps, âme, divinité, humanité dans l'Eucharistie? Que comprenons-nous vraiment? Que notre vie, alors que nous voyons nos misères, nos limites, nos faiblesses, la maladie et même la mort, comment pouvons-nous comprendre que nous vivons déjà avec lui pour toujours? Oui, notre compréhension est petite, mais notre foi supplée à cela. Alors, avec le Christ, avec les apôtres, il nous reste à faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire à monter à Jérusalem, à jeûner, à prier, à commettre des actes de charité, à tenter une fois de plus de nous convertir. Voilà cette convocation. Réjouissez-vous, c'est vraiment un chemin vers Pâques. Après cette rencontre ici de l'aveugle, le Seigneur va monter à Jérusalem et cela sera le début d'une gloire éphémère, puisque c'est les rameaux. Voilà pour les apôtres qui nous montrent le chemin, car ils sont restés avec le Christ et ils sont montés à Jérusalem avec lui. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Pour le reste, cela nous sera livré en temps voulu. Alors voyons cet aveugle. Ce n'est évidemment pas pour rien, je pense que vous l'avez déjà compris, que le Seigneur ici va rendre la vue à un aveugle. Aux apôtres qui ne voyaient pas, aux apôtres qui étaient dans la nuit, eh bien le Seigneur va manifester qu'il est vraiment la lumière de ce monde et qu'il est venu nous donner la vue. L'aveugle est sur le bord du chemin, il y a une foule nombreuse, il entend des gens qui passent et il s'interroge. Combien nous voudrions que nos contemporains s'interrogent plus souvent. Je m'étonne, mes bien chers frères, que nos contemporains soient si souvent indifférents. Avoir des milliers et des milliers de catholiques venir dimanche après dimanche chercher la vie. Oui, bien sûr, on peut se désoler, faire de la sociologie, de la statistique et dire qu'il y a 4% de pratiquants parmi les 70% de baptisés en France. C'est à peu près les chiffres, je crois. On peut s'en désoler. Moi, je m'étonne que malgré le matraquage matérialiste de ce monde, malgré la contradiction permanente, la raillerie, la moquerie, eh bien, je m'étonne que 2000 ans après, la foi des chrétiens se manifeste encore et vienne, dimanche après dimanche, chercher le Seigneur, le voir, en vivre et ainsi participer de sa vie éternelle. Oui, je suis admiratif, tout comme l'aveugle, d'entendre que les chrétiens se pressent autour du Christ, que ceux qui sont tout près de devenir des chrétiens le suivent et sont prêts à l'acclamer. Mais voilà, l'aveugle veut se faire entendre, il veut venir, aussi il crie. C'est une bonne chose qu'il puisse crier. C'est une bonne chose que nous puissions, nous aussi, nous exprimer avec force. Pourquoi ? Parce que la volonté ici ne doit pas être débile. La volonté d'aller vers le Seigneur, la volonté de vouloir le Seigneur doit être forte. Si nous voulons un petit peu, si nous aimons le Seigneur un petit peu, si, bref, nous avons peut-être l'idée que nous sommes un petit peu sauvés, eh bien nous sommes complètement dans l'erreur. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est notre cœur et il ne veut pas des moitiés de cœur. Il ne veut pas, car c'est l'amour qui se manifeste ici, que, éventuellement, de temps en temps, nous l'aimions un petit peu. Le Seigneur veut tout, il veut toute notre vie. N'ayez pas peur, comme cet aveugle, de crier votre foi et de dire « Seigneur, aie pitié de moi, fils de David ». Il ne va pas se contenter de crier, il va bondir dès qu'on lui permettra un passage, car le Seigneur l'a entendu. Le Seigneur a le droit de rencontrer chacun d'entre nous personnellement et nous avons le droit de rencontrer personnellement notre Seigneur. C'est ce que disait Jean-Paul II en parlant de la confession. C'est vrai de la confession, c'est vrai de l'Eucharistie. Nous ne distribuons pas ici le Seigneur pour qu'il soit porté indifféremment. Non, c'est chacun, l'un après l'autre, qui reçoit son Seigneur. C'est ce que fait ici l'aveugle. Il s'approche avec foi et avec ardeur de Dieu. Tout à l'heure, en vous approchant de la Sainte Table, vous vous leverez de la même manière que cet aveugle, vous courrez, dans l'ordre tout de même, pour ne bousculer personne, et vous vous plongerez aux pieds du Seigneur, c'est-à-dire que vous ferez cet acte de foi qui atteste que vous savez ici qu'il y a beaucoup plus que un, deux ou trois prêtres et quelques enfants de cœur et une sainte prière. Vous savez qu'il y a ici Dieu lui-même. C'est pourquoi vous viendrez vous prosterner au pied de cet autel. Mais ce n'est pas tout. Il va encore confesser. Il va confesser sa foi et il va confesser son infirmité. C'est ce à quoi nous allons être convoqués durant ce carême une fois de plus. Confesser notre foi, confesser notre péché. Bien sûr, il l'a dit, il est le fils de David. Il a reconnu le Messie. Lui qui pourtant est aveugle, il sait que Jésus est le Messie, car le Seigneur parle au cœur. Le Seigneur n'attend pas que nous ayons une capacité intellectuelle déterminée. Le Seigneur n'attend pas que nous ayons fait un certain nombre de cours de théologie. Le Seigneur n'attend pas cela. Il vient à nous et parle à notre cœur, si bien entendu nous sommes prêts à l'entendre, c'est-à-dire si nous mettons les moyens nécessaires, les conférences de carême, les actes de piété sont autant de dispositions dans lesquelles nous nous mettons pour recevoir cette révélation. Le plus étonnant pour moi dans cette histoire, et peut-être, j'espère, pour vous, c'est la question que le Seigneur va lui poser. Le Seigneur est décidément un pédagogue extraordinaire. Il y a là un aveugle qui crie son désespoir, qui crie vers lui. Il le laisse s'approcher. Et que fait-il ? Il lui pose la question : que veux-tu que je fasse pour toi ? Vous pourriez dire : quelle question bizarre ! Le Seigneur ne voit-il pas ? Que, évidemment, il a envie de voir. Mais voilà, le Seigneur, comme toujours, va laisser notre liberté jusqu'au bout s'exprimer. Parfois, nous avons l'impression, nous aussi, d'être dans le noir, de ne pas comprendre. Mais c'est que le Seigneur nous laisse l'espace où nous allons pouvoir avancer, manifester, demander son aide et sa grâce. Oui, jamais le Seigneur ne nous séduit, ne nous prend par force, par avance. Non. Sans cesse, il se propose, sans cesse, il attend que nous puissions pleinement exister dans l'être et dans notre existence en étant libres et en choisissant d'aller vers lui. Alors, la réponse de l'aveugle est cinglante, « Domine ut videam, Seigneur, que je vois !» Eh bien, je vous laisse repartir après cette messe avec cette question, avec cette demande profonde au Seigneur, « Seigneur, que je vois !» Seigneur, que je vois où tu m'appelles. Seigneur, que je vois comment tu m'appelles. Seigneur, que tu me montres là où je dois encore changer. Oui, nous avons besoin de la lumière du Christ pour changer. Ce n'est pas de notre propre intelligence, ce n'est pas de notre propre fond que d'abord nous allons nous tourner vers le Seigneur. Nous le voulons, mais c'est lui qui va se révéler à nous. Demandez-lui. N'hésitez pas, osez lui demander, « Seigneur, que je vois ?» Vous le savez, le plus dangereux avec le Seigneur, c'est qu'il répond. Alors, osez demander, demandez peut-être une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ça n'a pas d'importance. Demandez réellement, et quand le Seigneur le voudra, il vous fera connaître son plan de salut personnel pour vous, quand il sera bon pour vous. Ainsi soit-il.